ils essaient de court-circuiter, vous voyez, le fonctionnement ordinaire de l'administration. Et donc, ils cassent toutes les routines de travail. C'est-à-dire, aujourd'hui, on n'a pas des gens qui organisent un nouvel État. On a des gens qui désorganisent la manière dont ça fonctionnait pour asseoir leur propre légitimité. Mmh. Alors, comment ça tient ? Bah, ça tient, d'un côté, avec des résistances. Vous voyez, les diplomates, les militaires, les magistrats, les préfets qui se plaignent. Non, ça, c'est très important. Ça tient parce que les agents du service public les plus ordinaires, eh ben, ceux qui ont été socialisés dans un état antérieur du service public qui était là pour rendre service aux gens, ben, prennent sur eux. Ils essaient de faire en sorte que, alors qu'on n'a plus les moyens, alors que tout ça, ben, ils essaient malgré tout de faire en sorte que ça tienne, de remplir leur mission de service public.
Et là, ça, c'est très douloureux.
Ça donne des choses tout à fait douloureuses. Ça donne des gens qui vivent l'échec comme personnel, des gens qui suicident, des gens qui tombent en arrêt maladie, etc. Donc, il y a une souffrance professionnelle très importante. Ça tient, si vous voulez, pour cela. Mais, et c'est sans doute un élément d'espoir, je dirais, c'est que, grosso modo, le mouvement de réforme actuel, tel qu'il est, c'est un mouvement qui est lié de coalitions hétérogènes. Il n'y a pas ce projet global. C'est fragile, l'alliance de la réforme actuellement. Cette réforme, elle ne peut fonctionner que parce qu'elle est très rapide, parce qu'elle est dans le mouvement. On passe d'une réforme à l'autre, on saute d'une réforme à l'autre. C'est-à-dire que toute inertie, tout ralentissement, toute résistance ben, casse cette dynamique de mouvement et fragilise d'autant les alliances hétérogènes qu'il apporte. Quand un mouvement s'arrête, qu'il faut négocier, que ça a résisté, on le voit d'ailleurs par exemple sur les magistrats. Et les magistrats, le gouvernement a reculé très rapidement sur cette question. Pourquoi ? Ben, parce que ça devient impossible, à un moment donné, de tenir des alliances. Donc je crois que l'un des éléments, enfin, je dirais qu'il y a d'espoir, c'est que toute forme de résistance professionnelle, toute forme de résistance territoriale, des territoires qui organisent des résistances autour de la défense de pôles de service public, de ce genre de choses. C'est des choses qui fragilisent à terme, je dirais, les alliances entre, je vous dis, un pôle financier de la haute fonction publique et un pôle politique des élites gouvernementales de gauche et de droite.
Ce que vous dites à travers ce bouquin, c'est que rien de tout ça n'est irrémédiable, rien de tout ça n'est inexorable. C'est une affaire purement idéologique, d'une part, et d'autre part, conduite par des gens alors, avec des trajets et des stratégies différentes, mais qui ont tous quand même le management à l'esprit, c'est-à-dire ce que vous disiez tout à l'heure, en montrant cette élite française, cette noblesse d'État d'aujourd'hui, qui est moitié business, moitié service de l'État, alors qu'il y avait quand même la noblesse d'État qui ne voulait pas du tout entendre parler d'argent. La politique ne se fait pas à la corbeille, enfin, ces choses-là sont vulgaires. Alors, il y a quand même cette mixité aujourd'hui, ce métissage qui déboussole beaucoup, mais en fait, c'est ça l'intention, c'est idéologie néolibérale, avec toutes les valeurs néolibérales qui vont avec, mais axée sur un but qui est le profit, pour simplifier.
C'est juste, mais je crois qu'il faut retenir l'idée que l'idéologie, les idées n'ont pas de force propre. Les idées ne fonctionnent que parce qu'elles sont portées par des groupes sociaux, et donc par des rapports de force. Dans l'immédiat, je crois que c'est aussi intéressant de voir que si ces transformations de l'État sont possibles parce que précisément elles correspondent à une période qui est celle d'une faiblesse historique du mouvement ouvrier, qui est celle d'une faiblesse historique, je dirais, des mouvements populaires en politique. On se rend compte que le développement des États-providence, c'est-à-dire d'États plus redistributifs, je dirais, c'est le moment où, précisément, on a eu des mouvements ouvriers forts ou des gouvernements qui agissaient sous la pression de mouvements populaires importants, c'est là qu'ils ont redistribué. Je crois qu'aucun gouvernement n'a jamais redistribué par pure philanthropie. Je crois qu'on retombe sur une question qui est très très simple. C'est sans doute jamais nos sociétés n'ont produit autant de richesses. Et finalement, personne ne pose jamais la question de comment on répartit cette richesse. C'est-à-dire, où est-ce qu'on pose le curseur dans la répartition entre le capital et le travail, qui est une très très vieille question, et qui pour autant n'est plus posée politiquement.
La concurrence a oublié, quelque part en France, une vieille mémé qui attend les sous de son loyer et les mots doux d'un vieux pépé. Il faut que tu vois, faut que tu comprennes que cette fois la boîte est pleine. Non, tu peux pas voler le courrier. Sinon ça va péter. Ton almanach, on n'en veut pas. Y'a plus les fêtes, ni les vacances. C'est une arnaque. Au lieu du chat, y'a les vedettes de la finance. Il faut que tu vois, faut que tu comprennes que cette fois la boîte est pleine. Non, tu peux pas voler le courrier, ou sinon ça va péter.
si c'est le